Chers frères et sœurs, la grâce, la paix. Voilà quelque chose de bien routinier pour les salutations que nous avons dans notre Église. Mais peut-être que si une vérité ne devient pas vraie à force d'être répétée, une vérité qui est répétée, elle, a plus de probabilité d'entrer dans le cœur des personnes et de devenir une réalité pour chaque existence. Alors c'est donc sans aucun complexe que ce matin encore, je répète que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, selon ce que le Christ Jésus a incarné, pour que nous en vivions véritablement. Et inscrivons cette salutation pleine de grâce et de paix par la première strophe de notre psaume 81. Je vous invite à vous lever pour chanter cette première strophe. Nous louons Dieu avec les mots du psalmiste. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont toutes les parties sont liées. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont le trône pour la justice, le trône de la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem. Que ceux qui t'aiment puissent jouir du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Et avec le psaume 89, aux strophes 1, 3 et 4, nous poursuivrons notre louange par le chant. Prenons place pour nous recueillir dans la prière. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas de Dieu semblable à toi dans la terre et dans les cieux. Tu restes fidèle à ton alliance, tu es miséricordieux. Mais la question se pose, celle de Salomon. Habiterais-tu véritablement dans cette maison, parmi les hommes ? Voici, les cieux et les cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison bâtie de main d'homme. Toutefois, Seigneur, sois attentif à notre prière, puisque c'est là la promesse que tu as laissée à tes serviteurs, celle de pouvoir faire monter vers toi l'expression de notre reconnaissance, de notre inquiétude, de nos interrogations. Il y a de tout cela dans notre vie, à la fois l'envie de dire merci pour la beauté, l'amour, dire merci pour ce que nous avons reçu, dire merci pour les actes de justice et de paix qui sont exécutés ici et là. Mais nous sommes souvent submergés par d'autres images, images d'épreuves qui nous affligent, images d'angoisse, images de maladies qui nous frappent ou qui frappent les nôtres. Et ces situations nous interrogent parce que nous nous découvrons incapables de pouvoir résoudre tous nos problèmes, incapables de pouvoir faire reculer le mal en toutes circonstances, incapable d'atténuer les souffrances et les douleurs que nous voudrions pourtant supprimer. Au fond, bien souvent, nous nous découvrons incapables par nous-mêmes de faire le bien. Et c'est pourquoi nous voulons nous tenir devant toi, pour être au bénéfice de ton regard bienveillant, miséricordieux, pour activer cette promesse que tu es présent partout où tu fais retentir ton nom, à commencer par ce lieu. Alors, ce que nous te demandons en toute simplicité, c'est de nous revêtir de ton salut et de susciter en nous une véritable joie de vivre, un goût pour la vie et un désir de nous mettre à ton service pour que l'amour, la grâce, la paix ne soient pas simplement de belles paroles, mais la réalité de notre existence. Oui, fais-nous cette grâce. Amen. Restons assis pour chanter la troisième strophe du psaume 81. Et c'est Agnès qui nous fait retentir une parole de grâce qui vient en réponse à notre prière.
Le poète Paul Éluard écrivait « Il y a des mots qui font vivre. Ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté le mot enfant et le mot gentillesse, le mot courage et le mot patience, le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Que le mot pardon nous fasse vivre.
Et levons-nous pour chanter la quatrième strophe du psaume 81. Je constate que rien ne vaut une bonne parole de grâce bien proclamée pour que le chant devienne tonitruant, et c'est heureux. Maintenant que vous voilà plein de grâce et de force, voici une parole qui peut être en quelque sorte l'expression de la volonté de Dieu à notre égard. Nous l'entendons dans le livre du prophète Ésaïe. Il dit ceci : « Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans abri, couvre celui qui a froid. » J'ajouterai, s'il en a vraiment besoin, ouvre-lui ton temple et ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Voilà, frères et sœurs, quelques paroles qui peuvent être pour nous comme une sorte de point de repère quand nous ne savons plus très bien comment servir au nom du Christ. Asseyons-nous, et avant d'ouvrir la Bible et d'y lire le passage qui va nourrir notre méditation ce matin, nous prions Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne à travers les mots que nous allons entendre, et qu'elle parle à tout notre être. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne en quelque sorte évangile pour notre vie. Amen. Les catéchumènes savent bien que lorsque la Bible est ouverte ainsi, c'est donc dans le livre de... Non, ce n'est pas le Deutéronome, c'est encore avant. C'est le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, nous y faisons la lecture suivante. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme, au moment où ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, presque une publicité pour Peugeot. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 912 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 905 ans. Puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Yéred. Mahalalel vécut après la naissance de Yéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Et la durée totale de sa vie fut de 895 ans, puis il mourut. Yéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Yéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Petit joueur. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lamech. Mathusalem vécut après la naissance de Lamech 782 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans. Puis il mourut. Lamech, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. » Lamech vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Petite respiration avec la cinquième strophe du psaume 81. Chers frères et sœurs, il y a plusieurs généalogies dans la Bible. Mais il est rare que nous nous y attardions. Et bien souvent, nous faisons aux généalogies le sort que nous faisons aux génériques des fins de films. C'est le moment où nous rallumons notre téléphone mobile quand nous ne sommes pas déjà partis. Et pourtant, quand on considère ce qu'est le livre qu'on appelle la Bible, à l'époque où il fut composé, C'est une époque où on ne pouvait pas faire de copier-coller facilement. Tout se faisait à la main sur des parchemins qui avaient été soigneusement préparés et avec beaucoup de temps consacré à cela. Autant vous dire que quand on écrivait quelque chose, ce n'était pas accessoire. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison, je pense qu'il est juste et bon que lorsque nous croisons une généalogie sur la route de notre lecture biblique, nous ne lui fassions pas le mauvais sort que nous faisons parfois au générique. Car sinon, il se pourrait que nous rations les pépites qu'ils contiennent, comme parfois nous ratons du coup les petites séquences inédites qui sont cachées au milieu des génériques et qui des fois valent même mieux que le film lui-même. J'aimerais donc que nous abordions ce texte biblique comme on entame une enquête policière et que nous y trouvions, si ce n'est un crime, le mobile du crime, etc., du moins de quoi nourrir notre existence et rendre la vie un peu plus compréhensible. Et pour cela, je vous propose de faire d'abord des observations générales, puis ensuite de nous intéresser plus spécifiquement au cas d'Adam, de Lamech et d'Enoch. Tout d'abord, cette généalogie, c'est une généalogie qui relie Adam à Noé. Et en disant cela, nous disons déjà une chose essentielle, il n'y a pas d'histoire sans des personnages. Voilà une sorte de la palissade qui a son importance. Cela dit qu'il n'y a pas d'histoire sans être humain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour penser notre condition humaine sur Terre. Cela signifie que ce sont les êtres humains qui donnent du sens à ce qui se passe sur Terre. L'histoire, c'est l'art de recueillir les signes du passé, de les relier les uns aux autres pour essayer d'élaborer le sens que nous appelons l'histoire. Ce sont les hommes qui embrassent différentes époques, différents événements dans un même regard, et parfois donc dans un même récit. On peut toujours dire que l'homme est irresponsable, qu'il est négligent envers la terre. Il n'empêche que c'est lui qui a la mémoire de l'histoire de la planète Terre et qui, par son intelligence, fait le lien entre les différents événements qui peuvent avoir lieu pour donner du sens. Et c'est parce qu'il fait le lien, ici le lien généalogique, qu'il est possible de voir les évolutions qui ont cours sur la planète Terre, qu'elles soient positives ou qu'elle soit négative. Et au fond, peut-être que la grande différence entre un moustique de Camargue et un paroissien de Maglone, c'est que le paroissien de Maglone, lui, est capable de repérer les éléments qui constituent l'histoire et donc l'évolution de notre planète pour en faire quelque chose. Et du coup, il peut être beaucoup plus responsable que ne l'est le moustique. La généalogie est utile, même si nous ne la comprenons pas, au moins pour prendre conscience que nous ne vivons pas seulement dans le présent, dans l'instantané. Si nous sommes un être capable de bien des sentiments, de bien des réjouissances et de bien des tristesses, c'est parce que nous sommes riches d'un passé qui contient des expériences qui ont forgé notre conscience et notre sensibilité au monde, et aussi qui ont forgé notre sensibilité à la justice. Ce qui s'est passé nous occupe, et c'est à cette condition que le passé nous occupe que l'avenir peut nous préoccuper. Donc, une généalogie qui nous rappelle qu'il y a de l'histoire nous permet d'être responsable, c'est-à-dire de pouvoir réagir à ce qui arrive compte tenu des leçons du passé. Deuxième observation, c'est que si l'homme donne du sens à ce qui se passe et que cela permet d'observer l'évolution du monde, Eh bien, cela signifie que les généalogies sont précieuses parce qu'elles nous prémunissent du fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est, notamment en religion, cet effort pour retourner toujours à l'origine, toujours au fondement de la religion, au fondement de la civilisation, au fondement de l'humanité, au fondement de l'histoire, au point zéro. Mais la généalogie nous prémunit de faire de ce supposé point zéro un temps idéal qu'il faudrait rejoindre en permanence. Ce texte nous dit qu'il n'est pas possible, en fait, de faire comme si le travail patient des êtres humains était inutile. Ou pire que cela, qu'il valait mieux sauter en arrière pour le supprimer, comme le font les fondamentalistes, qui finalement rejettent du revers de la main la tradition. Ce texte nous dit que nous tirons notre existence d'autres personnes que nous-mêmes, que nous ne sommes pas le point zéro de l'histoire. Et c'est aussi ce que notre foi nous indique en nous mettant en relation avec Dieu. Nous ne sommes pas auto-fondés. Nous ne tirons pas notre existence de nous-mêmes. La généalogie nous insère dans une chaîne qui nous dépasse largement. Ça nous ramène à une plus juste mesure. Nous sommes un maillon, probablement un joli petit maillon, mais un maillon. Et nous ne pouvons pas faire comme si le reste n'existait pas. Nous avons une histoire dont nous ne pouvons pas faire abstraction. Et nous sommes notamment ce que d'autres ont fait avant nous. Et ces généalogies sont autant de révélateurs du fait que nous prenons notre place dans une chaîne, dans une histoire. Et du coup, ces généalogies nous conduisent à dire merci, à exprimer notre reconnaissance envers ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Est-ce que les enfants disent suffisamment merci à leurs parents ? C'est l'occasion, ils sont à côté de vous, profitez-en. La gratitude, voilà ce que suscitent les généalogies. Prendre conscience que nous n'avons pas forcément une dette, car les parents donnent la vie, mais que nous pouvons être reconnaissants, car ils ont pris une part essentielle dans le fait que nous soyons au monde. Si on lit ces généalogies avec un peu plus d'attention, on se rend compte que la gratitude ne dispense pas d'un droit d'inventaire. Oui, nous avons reçu des choses de nos anciens, mais il ne s'agit pas de garder tout ce que nous avons reçu. Et le rédacteur fait ainsi. Les rédacteurs bibliques font ainsi. Ils ne font pas un récit détaillé de tout ce qui s'est passé. Ils font un choix dans ce qui est édifiant pour s'en nourrir, rejetant ce qui n'est qu'accessoire, secondaire, ce qui ne mérite pas d'être retenu, ou, cela arrive chez les rédacteurs bibliques, réécrivant l'histoire dans le sens de ce qui est plus souhaitable d'un point de vue évangélique, pour que l'histoire soit une histoire édifiante, et pas simplement l'occasion pour nous d'être un peu curieux de ce qui s'est passé. Quand on compare cette généalogie à la littérature du Proche-Orient ancien, en l'occurrence la liste des rois sumériens, on constate que cette généalogie n'est pas destinée à glorifier des hauts dignitaires pour les œuvres qu'ils auraient accomplies. Ici, les humains ne sont pas justifiés par leurs œuvres. On n'a pas la liste de tous les grands accomplissements qu'ils ont faits. C'est une manière de dire que ce qui compte, c'est d'abord notre personne, notre personnalité. Et au fond, qui que vous soyez et quoi que vous ayez fait, vous êtes ici digne d'être inscrit dans une généalogie. Vous n'êtes pas anonyme, vous n'êtes pas transparent, vous avez une consistance suffisante pour être intégrés dans cette grande chaîne de l'humanité. Ce qui est frappant dans Genèse 5, c'est que les êtres sont nommés, contrairement à ce qui se passe en Genèse 1. Souvent, on dit, bah, si, il y a quand même Monsieur Adam et Madame Ève. Mais pas du tout. Adam et Ève, ce sont en fait des termes génériques. Adam, en hébreu, ça veut dire être humain. Et Raya, en hébreu, ça veut dire la vie. Ce n'est pas Monsieur Adam et Madame Ève, c'est l'être humain qui fait face à la vie. C'est le principe dynamique de la vie. Ici, en revanche, il y a des noms pour créer des individualités. Nous sommes chacun des êtres uniques, singuliers. Voilà ce que dit ce texte biblique. Nous ne sommes pas une masse informe. Nous ne sommes pas un groupe anonyme, indifférencié, digne du tohu-bohu. L'acte de création qui consiste à nommer les choses et les personnes est bien en route ici même. Devant Dieu, et c'est la raison pour laquelle la théologie est importante, devant Dieu, nous serons toujours quelqu'un. Même lorsque, dans notre histoire personnelle, nous avons tendance à être effacés aux yeux de la société, devant Dieu, nous serons toujours quelqu'un à part entière. Sommes-nous quelqu'un pour celui ou celle qui est devant nous ou derrière nous, ici au Temple ? Je veux dire, sommes-nous capables de dire quel est le prénom ou le nom de la personne qui est devant nous ou derrière nous ? Le temps des annonces pourrait être l'occasion, à défaut de vous donner le signe de paix, de vous présenter un peu. Ça réduit l'anonymat. Ça augmente la personnalisation, ça renforce la dignité, c'est bon pour la planète, c'est écologique. Enfin, cette généalogie, pour ce regard surplombant, aussi mythologique soit-elle avec ses nombres d'années extravagants, est aussi un texte qui nous fait prendre conscience de notre finitude. Il y est question de mourir. Et cette donnée-là, la Bible ne l'esquive pas. Vous voyez, on est au 5e chapitre de la Bible, et des morts, il y en a déjà eu quelques-unes, et la Bible l'inscrit en toutes lettres pour que nous soyons conscients de cette réalité-là, et que nous ne vivions pas dans l'illusion que être en Dieu nous exonérerait de la mort. C'est un fait à intégrer dans notre vie. Nous pouvons y être plus ou moins sensibles en fonction de notre âge. Déjà que pour certains, la retraite, c'est à l'autre bout du monde. Mais c'est une donnée de notre existence que nous ne pouvons pas ignorer au risque de devenir inhumain. Au fond, qu'est-ce qui nous rend humain ? Si ce n'est cette sensibilité à la fragilité de la vie, et donc à la fragilité de l'autre. Être inhumain, n'est-ce pas se moquer éperdument de la fragilité de l'autre ? Être incapable de la moindre empathie ? Au fond, c'est ce qu'avaient bien décelé les aumôniers protestants qui avaient fait l'accompagnement des hauts gradés nazis durant le procès de Nuremberg. Ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient incapables de la moindre empathie, qu'ils n'étaient pas conscients, sensibles à la fragilité de l'autre. Ces nombres d'années invraisemblables qui vous ont fait sourire et même rire parfois sont utiles si on conçoit qu'ils indiquent qu'aucun des patriarches n'a atteint 1000 ans. Pas même Mathusalem, le plus vieux, qui n'a fait que le score de 969 ans. Personne n'atteint 1000 ans, ce qui serait une multitude d'années, et donc une manière de dire l'immortalité. Il n'y a pas d'immortalité à imaginer. La foi chrétienne n'est pas l'avocat de l'immortalité. La vie éternelle n'a pas de rapport avec l'immortalité. La mort est partie intégrante de la vie. Cela est signifié dès le début de la Bible. Maintenant, intéressons-nous à Adam, Lamech et Enoch. Ce qui me frappe avec l'histoire d'Adam, c'est qu'il engendre son fils Seth dans des termes analogues à la création d'Adam par Dieu. Adam engendre un fils à sa ressemblance et selon son image. Cela est intéressant parce que cela signifie qu'Adam continue l'acte créateur de Dieu. Le fils d'Adam sera lui-même porteur de l'image d'Adam et donc porteur de l'image de Dieu. Et ainsi de suite jusqu'à nous. Ne baissez pas la tête. Si nous sommes porteurs de l'image de Dieu, c'est plutôt réjouissant. Il faut en faire un titre de gloire. C'est important parce que la narration de la naissance de Seth intervient après le petit pique-nique des personnages Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait preuve de liberté, ce qui est réjouissant, mais dont certains disent que cela signe le début du péché originel. Mais en fait, quand on regarde cette généalogie qui intervient après le fameux petit pique-nique, Adam est capable de poursuivre le dynamisme créateur de Dieu en faisant en sorte que Seth, son fils, soit donc à sa ressemblance et à son image, autrement dit, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et nous, à sa suite. Alors, ne me parlez pas de chute. Ou alors, c'est la chute de l'histoire, au sens très positif du terme. Cette précision est d'autant plus significative que dans le Proche-Orient ancien, seul le roi était considéré comme l'image de Dieu. Notre texte biblique est extrêmement subversif. Il indique en quelque sorte le sacerdoce universel avant l'heure, en disant que nous sommes tous porteurs de l'image de Dieu, ça signifie que nous sommes tous autorisés à avoir accès directement au sacré, à Dieu, quel que soit notre statut, quelle que soit notre fonction, quel que soit notre sentiment de dignité ou d'indignité. Et puis, il y a plus que cela. C'est que celui qui se tient face à moi est lui-même porteur de cette image de Dieu. Comment, dans ces conditions, imaginer lui causer le moindre tort? Cela devrait nous retenir d'être des crapules. Car toute offense faite au prochain est une offense faite à Dieu. Notons que le rédacteur biblique qui écrit en hébreu a laissé une trace grammaticale de ce que l'homme et la femme ont de spécifique, chacun pour ce qui les concerne, dans la question de l'engendrement. Le verbe « yalad » est conjugué à une forme simple pour la femme, pour dire « enfanter ». Un enfant, c'est « yeled », le verbe « enfanter », c'est « yalad ». Et conjugué à la forme simple, c'est toujours le cas pour la femme, on enfante. Pour ce qui concerne l'homme, c'est le même verbe, mais conjugué à un autre mode, au mode factitif. Autrement dit, l'homme n'enfante pas, il fait enfanter. On fait faire quelque chose à quelqu'un, le mode factitif, le ifil pour les puristes. Adam n'a pas enfanté, il a fait enfanter, une sorte de gestation par autrui. En l'occurrence, la mère. Et c'est pour cela que nos traductions utilisent souvent le verbe « engendrer », comme c'est le cas ici. Adam n'a pas enfanté, il a engendré, mais avec le même verbe, à un mode différent. Une façon de dire qu'il n'y a pas que du biologique dans cette affaire. Il y a aussi de la parole. Comme Dieu a créé par la parole en nommant, l'être humain engendre en créant un univers pour l'enfant et en continuant ainsi la création par tous les mots qu'il va lui offrir, à commencer par le mot qui constituera son nom propre. La qualité de la venue au monde dépend de la qualité des paroles que nous recevons. Adam nomme et l'humanité peut surgir. Si nous ne sommes pas des êtres dotés de paroles, nous ne sommes pas constitués intégralement de toute la vie intérieure dont nous pourrons bénéficier par ailleurs. J'en viens au personnage Lamech. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe avec Lamech, il faut lire un petit peu avant, parce qu'on parle déjà de lui dans les descendants de Caïn. Le personnage Lamech, je dirais qu'on voit la possibilité que nous avons de corriger notre trajectoire personnelle. Au début de la Genèse, quand Lamech apparaît, il est le père des arts et des techniques, mais il est aussi le père de la violence institutionnalisée. Et oui, forcément, parce qu'avec les arts et la technique, on peut faire des épées, et à partir de là, le glaive qui devient l'arbitre des situations. Après la violence de son aïeul Caïn, il est le père de la violence légalisée. Eh bien ici, nous apprenons que Lamech va vivre 777 ans. 3 fois 7, c'est hyper divin. Ça veut dire que notre Lamech, qui était à l'origine de la violence institutionnalisée, qui, en régime théologique, n'est pas une bonne violence. Ce n'est pas parce que la violence est légale qu'elle est bonne. Eh bien, ici, notre Lamech, par cet âge mythologique auquel on le fait décéder, indique qu'il a connu une évolution dans sa vie, qu'il est devenu divin, autrement dit qu'il s'est humanisé. Et c'est d'autant plus intéressant que si nous regardons côte à côte le texte hébreu, le texte samaritain et la traduction grecque dite des Septante, les âges ne sont pas les mêmes. Le rédacteur du texte hébreu a fait en sorte qu'il ait 777 ans pour indiquer cela. Il offre un message théologique qui n'apparaît ni dans la version grecque ni dans la version samaritaine. Cela signifie que nous pouvons changer. Non seulement nous pouvons changer le texte, parfois, mais nous pouvons changer nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous étions des petites crapules quand nous étions jeunes que nous ne pourrons pas devenir des êtres pleins d'humanité. Ici, le rédacteur pointe la miséricorde divine. Et nous le constatons aussi par les paroles qu'il prononce au sujet de Noé. Il dit que Noé va nous consoler du malheur, de la pénibilité, etc. Eh bien, ça signifie qu'il a donc pris conscience du mal et du malheur. Vous voyez, il est devenu sensible. Il fait preuve d'empathie. Il s'est donc humanisé. Alors qu'il était au départ juste le pourvoyeur de la violence légale. Et non seulement il est sensible au malheur et la souffrance de l'autre, mais il considère que Noé, qui va être donc capable de consoler, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, on peut être sensible à la violence, être tout à fait conscient que quelqu'un est en train de souffrir, mais en être assez indifférent. Lui n'est pas du tout indifférent. Il s'est vraiment humanisé. Je finis avec Enoch, un personnage dont on dit qu'il a marché avec Dieu. Autrement dit, qu'il a eu confiance dans la direction que Dieu lui indiquait. Eh bien, nous constatons qu'à un moment donné de son histoire, subitement, il disparaît. C'est encore plus radical en hébreu. Le texte hébreu dit « plus d'Enoch ». On le voit, on ne le voit plus. Il est enlevé par Dieu. Il y a des traditions juives qui disent que deux anges l'ont emporté sur leurs ailes au septième ciel, c'est-à-dire le ciel de Dieu. Enoch, c'est celui qui a vécu le moins longtemps, le fameux petit joueur, 365 ans, autant que de jours dans une année solaire, ce qui, dans une certaine mesure, montre la plénitude de son existence. La tradition, toujours, lui attribue l'invention de l'écriture, de la sagesse et de la science. Des humanités, quoi. Ces disciplines que nous pouvons apprendre pour devenir un peu plus humains. Renouons la gerbe de tout ce passage biblique. Qui l'avait lu, ce passage biblique, dans son existence ? Eh bien, c'est pas joli, joli. Mais voilà, On est là pour arranger les situations. De même que la Mecque évolue, nous évoluons ensemble. Il y a bien des raisons de venir au culte le dimanche matin. Ici, nous découvrons avec Hénoc que Dieu le prend et du coup lui épargne le déluge. Si vous rentrez chez vous et que vous faites un petit peu de mathématiques, vous allez vous rendre compte que Mathusalem, lui, va mourir à cause du déluge. Il meurt l'année du déluge. Il y a fort à parier qu'il soit mort à cause du déluge. Ça demande un petit calcul, mais on y arrive. Ici, Dieu épargne à Hénoc le fait même du déluge. Pour le rédacteur, je pense que c'est une manière de dire que tout n'est pas à jeter dans ce que l'homme fait. Même lorsque nous désespérons de l'homme, il y a encore des choses à sauver. C'est ce que Dieu fait avec Hénoc. Cette généalogie, du coup, est une manière de dire que l'homme n'est pas seulement capable du pire. Il faudrait qu'il y ait moins de lieux où on ait une vision sinistre de l'homme. Ici, en tout cas, on peut développer une espérance fondée aussi sur ces textes-là. Cette généalogie est une manière de dire que l'homme n'est pas seulement capable du pire, il est aussi capable de poursuivre la bonne création de Dieu, de prendre la suite de Dieu, de coopérer au dynamisme créateur de Dieu, pourvu qu'il embrasse largement l'histoire de l'humanité et qu'il devienne ainsi responsable, qu'il ne soit pas focalisé sur lui-même, mais qu'il soit capable de découvrir dans le visage qui se lève devant lui la ressemblance et l'image de Dieu. Et au fond, c'est peut-être notre vocation de permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur cette réalité, que nous sommes effectivement porteurs d'une image de Dieu. Respecter les individualités, permettre à chacun d'être une personne à part entière, et puis ne pas enfermer les gens dans leur passé, leur permettre d'évoluer, la capacité de changer, de se bonifier. Pensez à Mathusalem, c'est aussi un contenant de vin. Un vin qui va mûrir, qui va se bonifier. Au fond, cette généalogie n'est pas aussi anecdotique qu'il y paraît. C'est une généalogie qui, par les détails et dont son ambiance générale, nous rappelle que, à titre individuel, nous avons une valeur inconditionnelle, mais qu'ensemble, nous formons aussi cette communauté qui est capable de rendre cette terre infiniment plus vivable que ce que nous constatons actuellement. Alors, continuons sur la dynamique de dimanche dernier, pour que nous ayons une bonne année devant nous, bien vivable, au boulot. Amen. Au cantique 619, chantons les trois strophes pour entretenir le lien avec Dieu. Cantique 619, les strophes 1, 2 et 3. Prenons place. Dans notre agenda de la semaine, il y a demain à 19h30 une étude biblique qui sera plus spécialement animée par Philippe Galèze et qui est consacrée à Ézéchiel 37. C'est la vallée des eaux desséchées qui ressuscite. Il y a mercredi le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et comme vous le voyez sur la feuille d'annonce, il y a une célébration organisée à l'église protestante réformée évangélique qui est rue des Augustins, c'est près de l'esplanade Charles de Gaulle. Donc mercredi à 18h30, autour de l'ACAT, qui est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous savez qu'il y a chaque mois une possibilité d'envoyer un courrier pour alerter sur une situation injuste. Ici, vous êtes invité à écrire à l'ambassadeur de France au Vietnam pour l'informer de la situation du pasteur Nguyen Trung Thon qui est emprisonné depuis 5 ans. Il nous semble que c'est pour des motifs qui ne sont pas très sérieux. Et donc, vous avez à votre disposition des formulaires que vous pouvez utiliser pour alerter l'ambassadeur de façon à ce qu'il intervienne auprès des autorités vietnamiennes. Vendredi à 19h aura lieu la réunion du groupe des lycéens, ici même, au Temple. Je vous rends attentif à quelques dates dans la suite du mois de janvier. Il y a le 26 janvier un dialogue sur la liberté religieuse avec Shemseddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ici même, jeudi 26 à 18h30. Il y a des tracts à votre disposition à la sortie du temple. Prenez-les pour les donner autour de vous. Je sais bien que vous êtes au courant, mais vos voisins ne le savent pas. Vos amis ne le savent pas encore. Ça permettra de communiquer. Le dernier dimanche de janvier, ici même, après le culte, nous aurons un repas paroissial. Chacun est invité à apporter un plat sucré ou salé à partager. Et nous en profiterons pour tenir notre assemblée de secteurs, c'est-à-dire l'occasion de faire le point sur ce qui s'est vécu l'an dernier et de pouvoir discuter ensemble sur les souhaits, les envies, les désirs, sur les insatisfactions aussi, tout ce qui permettra de rendre notre vie d'église plus satisfaisante et plus évangélique aussi. Avant que vous remplissiez les aumônières de votre offrande, donnons un petit peu de sens à notre argent. Il y a tout d'abord le constat, le bilan de l'année qui vient de s'écouler. La situation est plutôt satisfaisante. Nous avons un léger repli de 1% sur les offrandes par rapport à l'an dernier, compte tenu de la conjoncture du décès de quelques membres. C'est pas si mal. Par contre, pour cette année, il va falloir faire beaucoup mieux parce qu'il y a quelques petites dépenses à faire. Alors, il y a des dépenses qui ont été faites. Vous voyez cette table de communion qui vient du temple de Pignan, ce qui permet aussi de monter les liens fraternels que nous avons dans notre métropole, a été restaurée par l'équipe de la commission bâtiment et plus spécifiquement par Michel Trouillet qui a fait des actes d'ébénisterie qui la rendent si belle. L'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite a été réparé. Vous voyez que les portes coulissantes ont été réparées. Et pour les dépenses à venir à court terme, il va falloir changer les recueils de chants. Voilà, ils sont en train de tomber en lambeaux depuis un petit bout de temps. On n'en a plus assez. Alors certains sont de bonne qualité, mais ce n'est pas suffisant. Donc il va falloir acheter des nouveaux recueils de chants. Et donc cela supposera une dépense d'environ 5 000 euros. Et puis, parmi vous, tout le monde n'entend pas aussi bien que les autres, les orateurs, en fonction des moments du culte ou des timbres de voix. Et donc, nous avons fait appel à quelques entrepreneurs pour élaborer une amélioration de la sonorisation. Nous attendons l'ensemble des devis, mais il y en aura au moins pour 15 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est aussi un sujet de dépenses auquel nous allons pouvoir contribuer. Et puis, je ne vous parle pas de tout le reste, Il y aura d'autres dimanches pour cela. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Vous savez à quoi ça sert. Pratique, n'est-ce pas? Unissons-nous dans la prière, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, nous voulons faire preuve de gratitude, prendre conscience que nous nous inscrivons dans une histoire grande et belle. Oh oui, certainement, pleine de détresse, de désillusion, de frustration, mais aussi rempli d'occasions de renforcer l'humanité, de la magnifier. Et le fait même que tu nous permettes de t'invoquer comme notre Dieu, notre Créateur, notre Père et notre Sauveur, indique notre valeur personnelle, et nous nous réjouissons de compter à tes yeux. C'est donc avec confiance que nous déposons devant toi tous nos soucis. Notre inquiétude. Nos espoirs et nos vœux. Afin que soit faite ta volonté et non la nôtre seulement. Nous déposons devant toi nos pensées et nos désirs afin qu'elles soient purifiées. Et qu'elle se déploie dans le sens de l'universel, qui tient compte de l'autre, de ce prochain, de celui qui se rend proche de moi. Et nous déposons devant toi toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises non pas à l'immortalité, mais à la vie éternelle. Autrement dit, une vie chargée de sens, d'un sens inaltérable, que rien ni personne ne pourra jamais nous retirer. Dans le secret de notre cœur, nous faisons mention devant toi de tous ceux qui vivent dans cette ville, dans ce pays, sur notre terre, et qui, d'une manière ou d'une autre, font partie de nos préoccupations. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays, dans le monde, sont responsables du droit, de la justice et de la paix. Permets que tous prennent conscience d'être inscrits dans cette grande généalogie de l'humanité et de pouvoir y prendre leur part. Et pour qu'advienne le règne de cette humanité que tu appelles de ton espérance, nous nous inscrivons dans la suite du nouvel Adam, Jésus le Christ, qui a enseigné à ses disciples à te prier de la manière suivante : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant laisser à Martin le soin de nous présenter ce que les enfants de l'école biblique ont réalisé pendant notre culte.
Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui il était question de l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Le message, c'est que Jésus accueille et bénit tous les enfants. Alors, aujourd'hui, nous en avons accueilli 7, mais on peut aller jusqu'à 10 et on compte sur vous pour en parler autour de vous et agrandir le cercle. Merci.
Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.